France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps, en Grèce, les grands héros devaient mourir, tous, sans exception. Ils ne pouvaient pas mourir simplement, comme tout le monde. Leur disparition devait être un événement grandiose, qui marque les esprits et qui soit digne d'être chanté par les plus grands poètes. Même les dieux devaient être impressionnés. C'est bien ce qui est arrivé à Héraclès, le fils du grand Zeus et d'une magnifique femme mortelle, Alcmène. Il a eu une mort surprenante, inattendue, mais qui était à sa hauteur. Après cette mort, il est devenu immortel. Il est devenu Dieu, ce qui est totalement exceptionnel. Son père Zeus l'a accueilli dans l'Olympe. Héraclès a été divinisé. Il a vécu jusqu'à aujourd'hui parmi les dieux et les déesses, marié à la déesse jeunesse, éternellement jeune, Hébé, fille de Zeus et de Héra. Il nage pour l'éternité dans le bonheur, la fête et l'abondance.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
C'est ce qu'il avait cherché toute sa vie, mais sans y arriver, à part l'abondance, qu'il savait pratiquer un peu partout, tant il était avide de vin et de bonne viande. Comme c'était un bon compagnon, rieur et noceur, on ne se privait pas de l'inviter à table. Parfois, s'il le fallait, il se servait lui-même. Il se gavait, mais ses plaisirs ne duraient pas longtemps. Mais pour devenir un dieu bienheureux, il lui a fallu mourir et aller jusqu'au bout de sa vie de héros. Et ça n'a pas été triste. Cette vie héroïque a été très pénible. Héraclès a été condamné à accomplir une longue série de travaux impossibles, 12 travaux, 12 épreuves qu'aucune personne normalement constituée n'aurait dû réussir. Mais Héraclès, l'Hercule des Romains, n'était pas normalement constitué. Il était doté d'une force gigantesque, et avec sa massue et son arc aux flèches infaillibles, il pouvait venir à bout de tous les monstres, sur terre comme en mer, de tous les brigands. Des hommes injustes, prétentieux, sanguinaires, xénophobes, qui peuplaient tristement le monde. Il a arpenté la terre dans toutes ses dimensions, jusqu'à ses limites, jusqu'au peuple du nord extrême, les Hyperboréens. Jusqu'au sud de l'Afrique, dit-on parfois. La Grèce et l'Europe, dans tous les sens, la mer Noire et l'extrême ouest, le couchant. C'est même lui qui a planté les fameuses colonnes d'Hercule, immenses sous le ciel, qui bordent le détroit de Gibraltar et signalent, avant l'impénétrable et inconnu océan Atlantique, les limites occidentales des continents connus. Il est même allé chez les morts, les enfers, et en est revenu. Rien ne pouvait le vaincre, il était simplement le plus fort. Mais bien que très fort physiquement, Héraclès était plus que faible socialement. Il était le fils illégitime de Zeus et d'une mortelle. La femme légitime de Zeus, Héra, le haïssait. Elle a usé de son pouvoir et de sa fourberie pour que Héraclès reste longtemps l'esclave d'un protégé à elle, un dénommé Eurysthée, roi de la ville d'Argos. Eurysthée était un minable, mais il avait pleine autorité sur Héraclès. Pour obliger Héraclès à se soumettre à ce roi peu digne de lui, Héra a été d'une violence et d'une cruauté inouïe. Alors qu'Héraclès s'était installé dans une ville, qu'il avait fondé une famille avec une femme de naissance royale, des enfants, et semblait pouvoir vivre une vie normale, Héra s'est abattue sur lui, l'a rendu fou, halluciné. Elle l'a poussé à délirer et à tuer dans une rage aveugle, femme et enfant. Après ce massacre, Héraclès avait perdu toute possibilité de vivre normalement. Il avait perdu toute attache, tout statut social d'homme libre. Il est devenu un paria, un errant. Il ne pouvait plus rien opposer à cette Eurysthée résignée. Il se mit donc à son service. 12 fois, Eurysthée a obligé Héraclès à accomplir des tâches impossibles. Nous les avons racontées. 12 fois, Héraclès n'était plus qu'une force brute qui obéissait à un autre, plus faible que lui. En fait, il ressemblait fort aux monstres, aux êtres déments, animaux ou humains, qu'il n'arrêtait pas d'écraser avec sa massue partout dans le monde. Héraclès ne pouvait pas tenir en place. Débordant de force, d'énergie, il courait le monde, alors que presque tous les êtres affreux qu'il dégommait étaient fixés à un seul lieu, le lion de Némée, l'hydre de Lerne, les oiseaux du lac Stymphale en Arcadie, le sanglier du mont Érymanthe, Gérion et ses bœufs, qui broutaient l'herbe d'une île lointaine dans l'océan, presque inatteignable, le chien des enfers et tant d'autres. Une de ses grandes victoires a été de supprimer les géants, des créatures immenses sorties du sol de la terre. C'étaient des êtres mortels, mais leur force était telle qu'ils menaçaient sérieusement les dieux de l'Olympe. Leur faiblesse était de faire dans l'hyperlocal, dans le circuit ultra-court. Ces géants étaient invincibles tant qu'ils touchaient le sol de leur terre natale. Héraclès a compris que pour les abattre, il fallait les traîner loin de chez eux. Il ne s'en est pas privé. Cette frénésie de force chez Héraclès était aussi mouvement, une force qui va. C'était une ouverture, un appétit pour l'inconnu, parfois avec de la générosité. Et c'était aussi de l'amour, même si souvent, il est vrai, cet amour était incontrôlé et brutal, et peu soucieux de contentement. Héraclès, à qui était refusé tout statut social précis, qui n'était le roi de rien, de nulle part, qui n'avait aucun lieu à lui puisqu'il était un esclave, voulait tout, tout de suite. Il refusait toute limite, toute fermeture. Il transgressait tout le temps. Mais c'est cela qui lui a permis d'aller partout, de découvrir et de baliser des mondes inconnus, d'ouvrir des routes pour les générations futures. Il était un pionnier, toujours premier. Mais cet appétit toujours avide l'a aussi conduit à la mort. Pour une histoire d'amour, la dernière, Héraclès va mourir à cause de deux femmes, une de trop. Il sera tué par le venin mortel dont il avait enduit une de ses flèches autrefois. Le poison de cette flèche mettra des années et des années à l'atteindre, mais il atteindra son but. Héraclès, qui a tué tant d'êtres hostiles, sera tué par lui-même en fait, sans le savoir, pour une histoire de jalousie qui va finir mal. Cette mort prend son origine dans une conquête amoureuse, une de plus, mais qui cette fois n'était pas une conquête en passant. Elle a débouché sur un mariage et une famille, une seconde famille, la dernière, après celle qu'il a massacrée dans une crise de démence. À un moment ou l'autre de son existence tourmentée, on ne sait pas bien quand, Héraclès a épousé la princesse Déjanire et a eu des enfants avec elle. Il était au moment de ce mariage encore au service du méchant Eurysthée et n'avait donc pas fini ses épuisants travaux. Déjanire, Dei Anaera, est un nom bizarre. C'est un nom de guerre qui tue les guerriers. Il peut s'entendre comme « qui tue son homme ». Héraclès aurait dû faire gaffe. La conquête de Déjanire n'a pas été chose facile. Héraclès a dû se battre contre un rival, un très coriace, dans une lutte impressionnante. Il faut dire que ce rival était un fleuve, l'Akelos. Comme tout fleuve, il pouvait prendre toutes les formes, l'eau n'ayant, comme on sait, pas de forme propre. Mais Héraclès a gagné. Le poète tragique Sophocle a raconté cette conquête mouvementée. Dans sa pièce « Les Trachiniennes », il fait parler Déjanire qui évoque sa jeunesse. Le fleuve Akelos lui faisait sa cour et demandait sa main à son père. La jeune Déjanire était horrifiée.
C'est une vieille idée bien connue chez les hommes qu'on ne peut jamais savoir avant la mort de quelqu'un si sa vie a été bonne ou malheureuse. Mais moi, avant d'aller aux enfers, je connais la malchance et le fardeau de la mienne. Moi, quand je demeurais encore à Pleurone, dans la maison de mon père Oïnéus, j'ai redouté mes noces plus qu'aucune autre femme. Mon prétendant était un fleuve, Akelos, qui pour me demander à mon père prenait trois aspects. Tantôt taureau, tantôt tortueux dragon miroitant, et tantôt forme d'homme à tête de bœuf et barbe touffue, de qui l'eau coulait comme d'une source. Et malheureuse, en attente d'un prétendant pareil, je souhaitais sans cesse mourir plutôt que jamais entrer dans son lit.
Heureusement, surgit un nouveau prétendant, le grand et fort Héraclès. Les deux se battent. Héraclès gagne.
À la fin survint à ma grande joie l'illustre fils de Zeus et d'Alcmène, qui se jeta sur lui en combat singulier et me délivra. Le détail de cette épreuve, je ne le dirai pas, Je l'ignore. Que le raconte qui peut rester sans trouble à ce spectacle? Moi, j'étais là, frappée de la crainte que ma beauté ne m'apportât que souffrance. Le Zeus des combats fit que l'issue fut heureuse.
Enfin, heureuse n'est vraiment pas le mot juste. Héraclès et Déjanire s'épousent, ils ont des enfants. Mais Héraclès doit s'absenter tout le temps pour ses fameux travaux. Il n'est presque jamais chez lui et ne voit presque jamais ses enfants. Son épouse, Déjanire, se consume d'angoisse à chaque absence vu les dangers que doit affronter son mari. Une fois, c'est elle, Déjanire, qui était la victime des êtres sauvages qu'Héraclès avait pris l'habitude d'éliminer. Heureusement, il était là avec son arc infaillible qui tirait des flèches empoisonnées. Ces flèches étaient mortelles. Héraclès, lors du deuxième de ses travaux, contre l'hydre de Lerne, l'affreuse créature aux têtes de serpent, a trempé ses flèches dans la vésicule biliaire du monstre qu'il venait de tuer. Cette bile était fatale pour quiconque entrait en contact avec elle. Or, un jour, Héraclès et Déjanire, à peine mariés, doivent traverser un fleuve. Un centaure, un de ces êtres hybrides, mi-cheval, mi-homme, offre ses services contre salaire pour le passage. Déjanire monte seul sur son dos chevalin. Héraclès est déjà passé. Le centaure, un dénommé Nessos, commence la traversée. Puis il s'arrête au milieu du fleuve et essaye de violer Déjanire. Elle crie. Héraclès se retourne, comprend la situation et décoche une flèche qui blesse mortellement le centaure. Avant de mourir, le centaure a le temps de faire le gentil et de donner un conseil amoureux à Déjanire. Il va mourir à cause de son désir en amoureux. Il propose donc à Déjanire de recueillir le sang de sa blessure. Il lui servira de filtre d'amour si, un jour, elle doit reconquérir l'amour et le désir de son mari. Sophocle, pudiquement, parle du sang de la blessure. D'autres auteurs y ajoutent la semence du centaure mêlée au poison de l'hydre.
La bête expirante me dit
« Fille du vieil Oïnéus, crois-moi, et tu tireras profit de ce voyage puisque tu es la dernière que j'aurai portée. Recueille de tes mains le sang autour de ma plaie, là où l'hydre de Lerne a imprégné de son fiel noir la flèche. Ce sera un charme sur le cœur d'Héraclès, en sorte qu'il ne pourra te préférer aucune des femmes qu'il verra. »
Malheureusement, Déjanire le croit. Elle recueille la liqueur précieuse et la cache bien dans l'ombre d'un coffre secret, comme le centaure le lui avait demandé. Cette liqueur va en fait tuer Héraclès. Déjanire sera, comme le dit son nom, effectivement tueuse de son homme. Mais attendons, cela demandera du temps. Ce sera la semaine prochaine.
Pierre Judet de la Combe parle d'Héraclès, terrassé par le centaure amoureux.
Life ain't always empty. Life ain't always empty. yourself a flower every 100th hour. Throw your head down from your lonely tower. And if you find yourself in the family way, give the kid more than you got in your day. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Don't give up too quick. You only get one line, better make it stick. And if we give ourselves to every breath, then we're all in the running for a hero's death.
Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Héraclès et Déjanire vécurent, pas très heureux, et eurent des enfants. Héraclès n'arrêtait pas de partir pour accomplir ses travaux forcés. Au cours de l'un de ses travaux, Héraclès fait étape chez un ami, le roi Admet. Ce roi est très connu pour son sens de l'hospitalité. Il sait accueillir de manière très généreuse, qu'on soit ami, étranger, dieu ou humain, tout le monde qui passe. C'est sa grande qualité. Or, le jour où Héraclès arrive chez lui pour faire bombance, comme d'habitude, Admet est plus que triste. Il vient de vivre un événement très douloureux, la mort de sa jeune femme, Alceste. Cette mort n'a rien d'ordinaire. Alceste s'est sacrifiée pour son mari. Elle a volontairement pris sa place, car c'est lui, Admet, qui devait mourir ce jour-là, et pas elle. L'histoire est extraordinaire. Admet avait eu droit à un privilège incroyable accordé par les dieux. Il pouvait retarder sa mort, ne pas descendre tout de suite aux enfers, si le jour où il doit mourir, un mortel, homme ou femme, lui offre de mourir à sa place. Le dieu Apollon a obtenu ce privilège pour Admet, car Admet a été pour lui un hôte merveilleux pendant toute une année. Apollon, en effet, vient de passer une année chez Admet comme serviteur, préposé à la garde de ses troupeaux. Apollon avait été condamné par son père Zeus à cette année de servitude en raison d'une faute lourde qu'il avait commise contre Zeus. Or, Admet a admirablement accueilli et traité son serviteur divin. Apollon s'est donc juré de le protéger. Apollon a enivré les divinités du destin et obtenu d'elles qu'Admet pourrait retarder sa mort si quelqu'un acceptait de mourir à sa place. Admet a demandé à son entourage qui serait prêt à le remplacer dans la mort. Il est très choqué que son vieux père et la vieille qui lui a servi de mère aient refusé alors qu'il n'avait plus grand-chose à perdre. Admet trouve cela très mesquin. Il était, lui, en âge de vivre tellement plus longtemps qu'eux. Seule Alceste, la jeune épouse d'Admet, lui a proposé de prendre sa place chez les morts. Elle va mourir. Le poète athénien Euripide a écrit toute une pièce, Alceste, sur cette histoire. La pièce est plutôt comique, malgré le sujet traité, la mort d'Alceste. Mais il y flotte aussi un parfum tragique, très étrange. Le jour fixé, le dieu préposé à la mort, Thanatos, vient chercher sa proie. Ce ne sera donc pas Admet, comme prévu, qui l'emportera dans les maisons souterraines, mais sa jeune épouse, Alceste. La pièce commence par un dialogue très vif, très tendu, entre Apollon et le démon de la mort, Thanatos. Le dieu Apollon, qui aime toujours cette famille, s'est posté devant la maison. Il interpelle Thanatos, venu emporter sa victime. Apollon essaye d'obtenir de Thanatos un répit pour Alceste. Thanatos refuse, catégoriquement. On s'aperçoit que le dieu implacable et têtu qu'est la mort est en fait très malin, qu'il est un habile débatteur. Comme tous les autres dieux et tous les humains, il n'obéit qu'à une règle, son plaisir. Et cela le pousse à parler avec finesse. Il réfute tous les arguments d'Apollon.
Peut-il se faire qu'Alceste parvienne à la vieillesse ?
Impossible.
Figure-toi que moi aussi, j'ai plaisir à goûter mes privilèges.
En tout cas, tu ne peux espérer prendre plus d'une vie.
Quand les gens s'en vont jeunes, j'en retire un honneur plus éclatant.
Qui mourra vieux sera enterré richement.
Tu fais la loi pour les nantis, Apollon.
Comment ? Tu t'y entends pour manier le concept ? On ignorait cela.
Si on te suivait, les riches paieraient pour mourir vieux.
Donc ils ne t'agréent pas de m'accorder librement ce plaisir ?
Jamais. Tu connais mes façons.
Apollon n'obtient rien. Alceste se prépare à mourir. Avant de suivre Thanatos, elle fait une ultime demande à son mari, Admète. C'est bien peu, dit-elle, vu ce qu'elle lui offre et ce qu'il lui doit, à savoir la vie. Elle lui demande tout simplement de ne pas se remarier, de ne pas imposer une belle-mère, une marâtre, à leurs enfants.
À toi maintenant de reconnaître le don que je t'ai fait. Ce que je demande ne vaudra jamais ce que tu me dois. Rien n'a plus de prix que la vie. Mais c'est juste, toi-même en conviendras. Voilà, ces enfants, tu les aimes autant que moi si tu as toute ta raison. Reconnais-les pour les maîtres de ma maison. Ne leur impose pas, en te remariant, une marâtre, une femme qui ne me vaudra pas et qui, par jalousie, frappera de sa main ses enfants, les tiens, les miens. Ne fais pas cela, c'est moi qui te le demande. Car une mère qui vient en second pour les enfants du premier lit, c'est une ennemie. Elle a moins de tendresse qu'une vipère. Adieu. Vivez joyeux. Toi, mon mari, tu peux te vanter d'avoir eu la meilleure des femmes. Vous, mes enfants, la meilleure des mères.
Admète, le mari, répond que non, évidemment. Il ne se remariera pas. Il portera le deuil toute sa vie, puisqu'en mourant, sa femme lui a ôté le goût de vivre. Ce qui est quand même gonflé. Si elle meurt, c'est pour qu'il vive. Et surtout, il dit qu'il fera une statue d'Alceste en bois et qu'il la mettra dans son lit.
Taillée par la main savante de menuisier, l'image de ton corps reposera étendue sur un lit. Je me jetterai contre elle. Je l'envelopperai de mes bras en prononçant ton nom. Et il me semblera tenir, sans la tenir vraiment, ma femme aimée dans cette étreinte. Froid plaisir, j'en conviens. Mais peut-être ôterai-je ainsi un peu du poids qui pèse sur ma vie. Et j'aimerais que tu viennes souvent dans mes rêves me réjouir. Car il est doux de voir, même la nuit, ce que l'on aime, fût-ce pour un moment.
Les adieux sont émouvants. Alceste meurt sur scène.
Tu peux m'appeler rien. Je ne suis plus.
Redresse ton visage. N'abandonne pas tes enfants.
Ce n'est pas de plein gré. Adieu, mes petits.
Regarde-les. Regarde.
Je ne suis plus rien.
Que fais-tu ? Tu me laisses ?
Adieu.
Malheureux. Je suis mort.
Elle s'en est allée. La femme d'Admète n'est plus.
La mort va pouvoir emporter le cadavre d'Alceste après les rites qu'il faut accomplir dans la maison. C'est à ce moment précis qu'Héraclès arrive, tout joyeux. Il est plein d'énergie. Il doit aller accomplir un grand exploit, plus loin, au-delà de la Grèce. Admète l'accueil. Non seulement c'est pour lui un devoir d'accueillir les gens qui viennent, mais l'hospitalité est sa grande gloire dans le monde. Il adresse à Héraclès des paroles de bienvenue et d'extrême bienveillance. Mais Héraclès est gêné. Il voit bien que dans cette maison, il se passe quelque chose d'inhabituel. Admète fait, c'est le cas de le dire, une gueule d'enterrement. Il porte sur lui les signes du deuil. Héraclès lui demande pourquoi.
Héraclès.
Pourquoi offres-tu au regard cette tonsure de deuil ?
Admète.
Je vais ensevelir aujourd'hui un cadavre.
Héraclès s'inquiète. Il demande à Admète si ce sont ses enfants qui viennent de mourir ou ses parents. Les réponses sont négatives. Quand Héraclès demande s'il s'agit d'enterrer Alceste, la réponse d'Admète est très peu claire.
Héraclès.
Ce n'est quand même pas ta femme, Alceste, qui est morte.
Admète.
Sur elle, je peux dire une parole double.
Héraclès.
La dis-tu morte ou bien vivante encore ?
Admète.
Elle est et elle n'est plus, et cause ma souffrance.
Héraclès.
Je ne sais rien de plus. Tes paroles sont indéchiffrables.
Admète rappelle à Héraclès qu'Alceste avait fait le choix de mourir à sa place. Comme Admète ne veut à aucun prix qu'Héraclès apprenne la mort d'Alceste, car alors il ne pourrait pas accueillir dignement Héraclès et le laisser faire la fête chez lui. Il dit seulement que puisque Alceste a fait le choix de mourir, c'est comme si elle était déjà morte. Héraclès n'y comprend strictement rien.
Héraclès.
Être et ne pas être sont deux choses distinctes, selon la vie générale.
Admette.
Tu penses ainsi, Héraclès, et moi autrement.
Pour Héraclès, qui est très pragmatique, très basique dans son rapport au langage, un mot veut dire une chose et rien de plus. Si on existe, si on est, on ne peut pas ne pas être. Si on est vivant, on n'est pas mort. Point. Il n'y a pas à tortiller. Finalement, pour tout simplifier, Admet ment et dit qu'il va enterrer une femme familière de la maison, qui n'est pas de sa lignée, qui n'est pas de son sang. Ce qui, à la lettre, n'est pas faux, puisque Alceste, son épouse, ne peut avoir les mêmes parents que lui. Héraclès peut donc se rassurer et être son hôte, selon les règles. Héraclès est sceptique, mais la perspective d'un bel accueil lui plaît. Il s'installe dans la maison pour un festin, et comme il ne sait pas dominer ses envies, il mange, il boit énormément, chante à tue-tête n'importe comment, et fait un tapage d'enfer. Un serviteur est choqué et raconte cette beuverie scandaleuse.
J'ai vu venir à ce jour bien des hôtes, de toutes sortes de pays, à la maison d'Admet, à qui j'ai servi leur repas. Mais jamais je n'ai reçu dans ce foyer d'hôtes pire que celui-là. Pour commencer, alors qu'il voyait notre maître en deuil, il est entré, il a osé franchir les portes. Puis, au lieu de se contenter en homme raisonnable des mets qu'on lui présentait, puisqu'il avait appris notre malheur, il nous pressait de lui apporter tout ce qu'il n'y avait pas. Alors, prenant entre ses mains une jatte en bois de lierre, le voilà qui boit, sans le mélanger, le nectar d'une mer noire, jusqu'à se retrouver entouré, échauffé par la flamme du vin, et de se couronner la tête avec des branches de myrte, en aboyant des chants cacophoniques. On entendait en même temps deux mélodies. Lui, il chantait sans nul égard pour le malheur survenu chez Admet, et nous, les serviteurs, nous pleurions.
Héraclès finit par s'inquiéter de la triste mine des serviteurs. Il les force à lui dire la vérité, qu'Alceste est morte et qu'elle va être conduite dans sa tombe où Thanatos la prendra pour l'emmener à jamais dans les enfers. Héraclès tout de suite se dégrise, se ressaisit et prépare son action. Il sort, se précipite vers la tombe où doit être mené Alceste et il attend en l'embuscade le dieu de la mort, Thanatos, le prince des défunts. Dès qu'il paraît, Héraclès lui saute dessus et lui fait ce qu'il sait si bien faire, comme avec le lion de Némée. Il le prend dans ses coudes, le serre, et avec ses jambes, il lui écrase les flancs. Thanatos, vaincu à la lutte, doit relâcher Alceste, et s'en va, sans demander son reste. Là où les arguments sophistiqués d'Apollon n'ont rien donné, une bonne prise de catch a suffi. Héraclès ramène Alceste chez elle. Elle va revivre.
Marguerite Yourcenar.
Pour moi, alors pour ce qui m'intéressait dans Hercule, c'est le sentiment brut, en quelque sorte, de la chose à faire. Quand on demande à Héraclès pourquoi il fait tout ça, il n'a rien à répondre. C'est pas pourquoi. Il se trouve comme ça qu'il a ressuscité Alceste, il se trouve qu'il s'en va à la guerre. Ça se fait, ça se doit, et il ne va pas plus loin. C'est un héros purement nature.
Pierre Judet de Lacombe parle d'Héraclès, ce héros qui a vaincu la mort.
Héraclès est étonnant. Il est tout le contraire d'Orphée. C'est un braillard qui ne charme personne quand il chante. Il a même frappé à mort le frère d'Orphée, son professeur de sitar, tellement la musique n'est pas son truc. Mais bien qu'il chante faux, n'importe comment, il réussit là où Orphée a échoué. Lui, Héraclès, quand il va récupérer une épouse chez les morts, il y arrive, en donnant des coups, sans essayer de séduire et sans se faire avoir par la séduction. Orphée, le délicat, le musicien, laisse échapper son Eurydice pour toujours. Héraclès, la brute, ramène Alceste à son admète. Mais ce retour à la maison d'Alceste sera étonnant. Héraclès va bien s'amuser en combinant des retrouvailles plutôt perverses. Héraclès, pour une fois, va se montrer rusé. Admète, qui était son ami, l'a trompé. Il lui a menti en ne lui disant pas qu'il pleurait la mort de sa femme Alceste, mais d'une vague familière de la maison. Il n'a pas fait confiance à son ami. Héraclès décide alors de tromper Admète. Il rentre dans le palais et trouve Admète en pleurs, en gémissements. Admète dit que sa femme Alceste est finalement plus fortunée que lui, car elle ne souffre plus. Héraclès va balayer tout ça, avec beaucoup d'ironie. Il s'avance vers Admète. Une femme entièrement voilée l'accompagne. Personne ne peut la reconnaître. C'est évidemment Alceste, revenue à la vie. Héraclès présente cette femme inconnue à Admète, en disant qu'elle est un prix qu'il vient de gagner à la suite d'épreuves sportives très dures, épreuves de boxe, de lutte. En fait, c'est exactement ce qu'il vient de faire dans son combat avec Thanatos. Cette femme était la récompense attribuée au vainqueur. Or, évidemment, Héraclès a remporté toutes les épreuves, dit-il. Héraclès demande à Admète de garder cette femme avec lui, le temps qu'il accomplisse le travail que lui a ordonné son affreux cousin Eurysthée. Il lui dit qu'il ne le regrettera pas. Admète d'abord refuse. Il a juré qu'il n'aurait pas d'autre femme qu'Alceste. Et si cette femme inconnue habite chez lui, rien que le fait de la voir, elle, qui semble si belle, qui dans sa démarche, sa silhouette fait tellement penser à Alceste, ne saurait manquer de susciter le désir. Ce serait trop pénible. Héraclès insiste fortement. Finalement, Admète cède. Il accepte d'accueillir l'inconnu dans sa maison, malgré tous ses engagements de fidélité absolue envers Alceste. Héraclès lui demande de prendre la main de l'étrangère. Admète lui obéit. Ils sont liés. Héraclès dévoile alors la jeune femme. Et Admète, éberlué, découvre sa propre épouse, Alceste, bien vivante, alors qu'il vient de la trahir, juste après sa mort. Admète se demande si ce n'est pas un fantôme, une copie illusoire, fabriquée par les dieux. Après tout, il voulait remplacer dans son lit Alceste par une statue de bois. Héraclès le rassure, et il leur souhaite une longue vie heureuse. Mais quelle vie heureuse sera possible pour ces deux époux ? Elle a donné sa vie pour qu'ils survivent, et lui, juste après, il accueille une autre. Ces époux, soi-disant très amoureux, n'arrêtent pas de s'échanger. Alceste remplace son mari chez les morts. Il dit qu'il la remplacera par une statue de bois, puis finalement il accueille chez lui une autre femme, une inconnue. Cette inconnue est finalement Alceste elle-même. Qu'est-ce qu'il va rester d'eux vraiment ? Alceste s'est sacrifiée parce qu'elle considérait que son mari le méritait, qu'il était absolument unique et devait continuer à vivre plus qu'elle. En fait, c'est elle qui, par ce geste radical, généreux, se révèle totalement unique, irremplaçable. Elle montre son infinie supériorité sur son mari. Et lui, il la remplace juste après sa mort. Il trahit sa propre parole. Comment va-t-elle regarder son homme, ensuite, pendant tout le temps où elle va continuer à vivre, perpétuellement à ses côtés ? Mieux vaut ne pas assister à ça. Héraclès quitte les deux époux enfin réunis à jamais. Il sera lui aussi pris dans un piège posé par l'amour. D'abord, il finit de réaliser ses 12 travaux, l'un après l'autre, consciencieusement. Il en est au 8e. Il en reste encore 5 que nous avons racontés la semaine dernière. À la fin, après le 12e, après le chien Cerbère, qu'il a sorti des enfers comme il a sorti Alceste des griffes de la mort, il croit être libre, puisqu'il ne dépend plus de personne, puisqu'il en a fini avec son affreux cousin Eurysthée. Mais Héraclès va être victime de lui-même. Il va se mettre dans un esclavage amoureux qui le conduira à la mort. Pas tout de suite, ce sera la semaine prochaine, mais le piège commence à s'armer contre lui. Héraclès apprend que le roi d'une ville, un certain Eurytos, organise un grandiose concours de tir à l'arc. Eurytos était un merveilleux archer, difficile à battre. Son arc deviendra très célèbre. Ce sera l'arc d'Ulysse. À ce concours, il fallait vaincre le roi Eurytos, lui-même, et ses fils. Le prix à gagner était la propre fille de cet Eurytos, la jeune, blonde et splendide Iole. Iole, ou Ioleia. Héraclès y va. Et évidemment, il gagne, comme d'habitude. Mais le roi refuse de lui donner sa fille. Il a une très mauvaise opinion de lui. Il aurait dit à Héraclès qu'en fait, il n'avait pas vraiment gagné le concours puisque ses flèches étaient infaillibles. Il n'avait donc aucun mérite à les mettre dans la cible. Ou encore, il lui reprochait de n'être qu'un esclave avec ses travaux forcés. Il n'était donc pas digne de la princesse Iole. Et un soir, Eurytos l'aurait vu complètement saoul et l'aurait jeté dehors. Le refus du roi Eurytos est un affront très violent. Et en plus, Héraclès était tombé raide amoureux de la blonde Iole. Il la voulait. Il était devenu complètement prisonnier de son désir. Lui, qui a su maîtriser d'innombrables bêtes sauvages et ennemis féroces, ne peut pas se maîtriser lui-même. Ça va donc se gâter. La vengeance d'Héraclès contre le roi Eurytos sera terrible. Mais ça prendra du temps. D'abord, Héraclès commet une faute très grave. Pris par une démence subite, comme ça peut lui arriver, il déraille et massacre un fils de ce roi Eurytos qui était venu chez lui et qui était donc son hôte. Or, on a toujours des devoirs sacrés envers les personnes que l'on accueille chez soi. Héraclès ne respecte pas ses devoirs. Il précipite le fils d'Eurytos, le jeune Iphitos, du haut d'un rempart. Iphitos succombe. Zeus est alors furieux contre son fils. Héraclès peut être excessif, violent, c'est sa nature, il suffit de s'habituer. Mais il est insupportable qu'il viole les lois sacrées de l'hospitalité. Zeus est le garant de ces lois. Il se fait souvent appeler Zeus, l'hospitalier. Héraclès est coupable, il est impur, souillé par cette mort. Il cherche à se faire purifier à tout prix, sinon aucune vie ne lui sera possible. Il va voir le dieu Apollon dans son temple de Delphes, le grand dieu purificateur. Le dieu donne une réponse qui le terrifie et l'humilie. Héraclès ne sera libéré de sa faute envers le jeune Iphitos que s'il accepte d'être vendu comme esclave pendant un an. Il vient juste de sortir de sa servitude avec son cousin Eurysthée, mais l'esclavage doit recommencer. Le dieu Hermès, ce fils de Zeus qui s'occupe des affaires de commerce, vend le pauvre Héraclès à une femme, à la reine d'un pays d'Asie, la Lydie. Cette reine s'appelle Omphale. Le prix de la vente est reversé à la famille d'Iphitos, ce jeune homme qu'Héraclès a tué. Et là, chez la reine Omphale, Héraclès va vivre des expériences étonnantes. Pour une part, il va continuer à être l'Héraclès que l'on connaît, brutal, justicier et amoureux. Il fera profiter sa maîtresse, au sens de sa patronne, de ses qualités héroïques habituelles. Il s'emploiera à débarrasser son pays de plusieurs gêneurs mal intentionnés et nuisibles. Ainsi, dans le pays d'Omphale, vivait un viticulteur qui s'amusait à obliger les passants à travailler ses vignes. Une fois leur travail terminé, il les supprimait. Cela révolte Héraclès. Il se fait embaucher par ce paysan. Il déracine et brûle tous ses pieds de vigne, sacrifie et mange le plus gros de ses taureaux. Il force la porte du cellier, en sort une énorme jarre qu'il vide en buvant le vin pur jusqu'à la dernière goutte. Il chante en braillant, dévore fruits et gâteaux, provoque et cogne sans cesse le paysan et finalement déclenche une inondation qui emporte la ferme. Il n'oublie pas d'avoir une aventure avec la fille du paysan qui se suicide après son départ. Héraclès en est très triste et veut se tuer. On l'en dissuade. Il y eut beaucoup d'autres actions plus ou moins glorieuses. Un jour, il a abattu des méchants brigands que leur maman avait pourtant prévenus. Elle leur avait dit de se méfier de l'homme aux fesses noires. Mais pour leur malheur, ces méchants ne découvrirent cette particularité physique d'Héraclès qu'une fois qu'il les eut capturés et pendus par les pieds, ce qui leur donnait un autre accès visuel à son anatomie. De manière plus pacifique, il devint l'amant de sa maîtresse, la reine Omphale, et lui fit un enfant. Rien que de l'Héraclès normal, en somme. Mais d'un autre côté, Héraclès chez Omphale prit des habitudes qui, à première vue, surprennent. Omphale et lui échangèrent leurs vêtements et leurs accessoires. Ainsi, on dit, et on voit sur de nombreuses images, que la reine Omphale, splendide, souveraine, se revêtait de la peau du lion de Némée, et qu'elle maniait la massue, tandis que face à elle, Héraclès était habillé d'une robe de pourpre et tenait une quenouille. Il filait. On ajoute aussi que de temps en temps, Omphale le tapait avec une sandale. Le surmâle, le viril répétitif et infatigable, s'habillait donc aussi en femme.
Héraclès, ce héros, le supermâle, ce héros super viril, du féminin aussi en lui.
Nicole Laureau, helléniste.
Et oui, il y a toute une série d'histoires de vêtements autour d'Héraclès, et d'histoires de vêtements féminins qu'il endosse, des robes de femme, un péplos. Le corps souffrant d'Héraclès, encore une histoire de robe, encore une histoire de péplos. Lorsque son épouse Déjanire, croyant le ramener à elle, lui envoie une tunique qui devrait être une tunique d'amour, qui a été trempée dans le sang du centaure Nessos, dont elle ne sait pas que ce sang est mortel. Lorsque donc Héraclès est en proie à des douleurs terribles, il m'a semblé, en faisant un relevé strict des mots qui était employé par Sophocle pour traduire les douleurs d'Héraclès, que ces douleurs étaient du même type que celles d'Agamemnon aux chants de l'Iliade lorsqu'il éprouve quelque chose qui ressemble aux douleurs de l'accouchement.
Être féminin, parfois, ne l'empêchait en rien d'être viril. Au contraire, il était les deux. Il avait accès à tout, à tous les mondes, à tous les sexes. Rien ne lui était interdit. C'était une preuve de sa puissance. Mais cela vaut aussi pour Omphale, qui savait donc se présenter en femme hyper virile, avec les attributs les plus massifs de la masculinité, la massue et le lion. Les deux s'échangent, se complètent. Ces deux travestissements dans cette histoire n'existent que l'un par l'autre. Héraclès ne va pas circuler dehors habillé en femme. C'est seulement face à sa maîtresse, dans leur relation exclusive, qu'il se montre féminin. Même chose pour Omphale. Masculine, seulement avec lui. La fascination était réciproque, puisqu'on pouvait s'imiter l'un l'autre et reconnaître par là le pouvoir de l'autre, pouvoir féminin ou masculin. Cette connivence montre qu'ils savaient l'un et l'autre faire une distinction nette. D'un côté, il y avait les accessoires, les signes, qui étaient exclusivement et nettement féminins ou masculins, sans confusion possible. Et de l'autre côté, il y avait eux-mêmes. Des personnes qui étaient libres, fluides, tantôt féminines, tantôt masculines, d'autant plus fortes qu'elles pouvaient être l'un et l'autre, selon l'humeur, le moment. L'identité de genre et l'identité de personne pouvaient ainsi être soigneusement distinguées. Et c'est comme ça, avec cette liberté, qu'on pouvait apprendre à être vraiment homme ou femme. Ce n'était pas évident. On pouvait changer d'un commun accord, puis on redevenait à l'extérieur ce qu'il fallait être, avec une identité bien définie, bien typée, homme viril ou femme féminine. On connaissait d'autant mieux cette identité typée et limitée qu'on était passé par l'autre. Achille aussi, on le verra, est passé par là. Il a vécu une partie de sa jeunesse en étant élevé comme fille. Comme Héraclès, il filait la laine. Cela ne l'a pas empêché, bien au contraire, de faire un enfant à une de ses copines. Cette fluidité des genres qu'Héraclès a pu pratiquer sous la forme d'un jeu avec Omphale correspond bien à son histoire. Elle va le mener à sa fin.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
I'm dead.
Pierre Judet de Lacombe parle d'Héraclès, un héros viril et féminin.
On est pour le moment juste avant sa mort, qui a été annoncée au début de cette émission. Elle va lui tomber dessus la semaine prochaine. Sa mort sera due à une femme amoureuse et jalouse. Sa femme, dont le nom est hyper masculin. Déjanir, Deianeira, la tueuse de guerriers, ou dans le cas de son mariage avec Héraclès, la tueuse de son homme. Par amour de femme, elle va devenir vraiment virile, fidèle à son nom, et le tuer. Nous n'en sommes pas encore là, mais ça se rapproche. Le séjour chez Omphale prépare symboliquement cette mort que lui donnera une femme guerrière, amoureuse de lui. Omphale, contente d'Héraclès, le libère, après une année de bons et loyaux services. Enfin libre, Héraclès s'active pour punir celui qui a refusé de lui donner sa fille, la belle et blonde Iole. Héraclès lève une armée et va attaquer la ville de cet Eurytos, le père de Iole. Héraclès assiège la ville, la prend. Il massacre le roi Eurytos et la population mâle, et il s'en prend de Iole. Il envoie Iole avec de nombreuses captives chez lui, là où Déjanir, sa femme, l'attend depuis des mois. C'est une provocation. Et ce sera la fin d'Héraclès, le bad boy le plus glorieux qui ait jamais existé. Il sera tué par le poison qu'avait recueilli autrefois Déjanir dans la blessure du centaure Nessos. Ce poison venait de la flèche qu'Héraclès a tirée contre ce centaure parce qu'il voulait violer sa femme, Déjanir. Après des années, le poison frappera Héraclès à son tour. Il se sera donc tué lui-même. Si vous le voulez, nous entendrons cette triste histoire la semaine prochaine. Mais en attendant, un peu de poésie quand même. Omphale a inspiré Victor Hugo, qui lui a consacré un poème, Le roué d'Omphale, avec un bel anachronisme, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de roué, mais de simples quenouilles. Mais Omphale et Héraclès, et ses monstres, sont bien là.
Des aiguilles, du fil, des boîtes demi-closes, les laines de millet peintes de pourpre et d'or, emplissent un panier près du rouet qui dort. Cependant, odieux, effroyables énormes, dans le fond du palais, 20 fantômes difformes, 20 monstres tout sanglants, qu'on ne voit qu'à demi, errent en foule autour du rouet endormi. Le lion néméen, l'hydre affreuse de Lerne, Cacus, le noir brigand de la noire caverne, le triple gérillon et les typhons des eaux, qui, le soir à grand bruit, soufflent dans les roseaux, de la massue au front, tous ont l'empreinte horrible, et tous sans approcher, rôdant d'un air terrible, sur le rouet où pend un fil souple et lié, fixe de loin, dans l'ombre, un œil humilié.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Le Chêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Julien Chabassu et le mixage par Éric Boisset. Bonne journée sur France Inter.